Hello! Aujourd'hui, dans ce 64e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je ne me suis pas sentie légitime à faire ou dire quelque chose, et je te donne des clés concrètes pour dépasser ton syndrome de l'imposteur afin d'améliorer ton bien-être. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Après de longues études en alternance pour devenir enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée, une rentrée de septembre, je suis hyper fière d'être en poste. Ça y est, j'ai enfin le boulot de mes rêves. Celui qui me fait rêver depuis que j'ai 6 ans. J'ouvre la porte de ma classe, j'accueille mes élèves de 3 ans et 2 mois. Oui, c'est comme ça en Irlande. Et je souris aux parents qui ont encore plus besoin d'être rassurés que leur enfant. Et de temps en temps, durant cette journée, je me demande ce que je fous là. Quand je vois tous mes élèves me fixer du regard, bah je me dis qu'ils me font confiance, mais en fait, ils n'ont absolument aucune idée que c'est mon premier jour. J'avance le fil de l'histoire et on se retrouve plusieurs mois plus tard. Là, je suis en pleine discussion délicate avec une maman. Je m'apprête à lui annoncer que je suspecte une surdité chez son enfant. Alors je l'écoute, je lui montre les faits, c'est un échange que je trouve productif, mais stressant tant pour elle que pour moi. Par moments, durant cette discussion, je me dis que cette maman ne doit pas me prendre au sérieux car l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Clairement, plusieurs fois durant cette conversation, je m'évade, je suis moins présente pour la maman. Du coup, bah, je me mets à me demander ce que je fous là, à enseigner en maternelle à des enfants qui apprennent tout juste à parler. Et là, je me dis, suis-je légitime à le faire, sachant que l'anglais n'est pas ma langue maternelle? Une autre année, je co-anime un atelier sur le développement de l'enfant de 0 à 6 ans auprès de parents volontaires. Et je me souviens de ce sentiment d'illégitimité face à tous ces parents. Je me disais qu'il ne fallait surtout pas qu'ils sachent que je n'ai pas d'enfant, car sinon, ça voudrait dire que je ne suis pas crédible, et donc, ça voudrait dire que je suis une mauvaise enseignante. Alors, quel est le point commun à ces trois anecdotes? Roulement de tambour, c'est mon sentiment d'illégitimité à faire ou dire quelque chose. Comme l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être à la hauteur. Bon, et puis là, clairement, je ne t'ai donné que trois anecdotes. Mais j'en ai tellement plus, et dans plein de domaines différents. Je ne compte plus le nombre de fois où je ne me suis pas sentie à la hauteur ou légitime à faire ou dire quelque chose. Tiens, un autre exemple là qui me vient en tête, c'est le fait de m'inscrire à la salle de sport. Oh, maman, que je me sentais pas légitime à y être. Tu vois, je me disais que je n'étais pas assez sportive pour faire du sport ou pour traîner dans une salle réunissant tant de muscles et d'odeurs de transpiration. Je me disais qu'on allait voir que je n'étais pas sportive. Et donc, qu'on allait me juger pour ça. Et c'est comme ça que j'ai entamé ma carrière sportive en ne faisant pas de sport. Bon, alors là, clairement, je me fais rire avec le recul. Et puis surtout, je vois avec le recul hein, que mon raisonnement est bancal. Car pour devenir une personne sportive, bah, il faut bien commencer quelque part. Hein. Tout comme pour qu'il y ait 10 ans de carrière d'enseignante, il bah, faut bien commencer par le premier jour. Hein. Faut bien aussi avoir cette première discussion délicate, etc., etc. Mais voilà, sur le moment. Tout ce que je sais, c'est que je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas légitime à faire ou dire ci ou ça. Et voilà, j'ai vraiment peur que ça se voie, d'être démasquée, qu'on me juge, qu'on ne me fasse pas confiance. Et c'est vraiment emmerdant, hein, parce que la confiance, c'est quand même la base dans mon boulot. Surtout, voilà, quand j'étais enseignante, hein, je parle notamment. Mais c'était aussi une vraie souffrance que de régulièrement penser que j'étais illégitime à dire ou faire quelque chose. Et donc, ce que je retiens de ces fois où je ne me suis pas sentie légitime à faire ou dire quelque chose, c'est que le syndrome de l'imposteur repose sur une interprétation erronée des faits. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Il s'agit d'un ensemble de croyances ancrées à propos de soi qui nous amènent à douter de soi, à ressentir de la culpabilité, de la honte, de la peur et ou de l'anxiété. Et selon une étude de 2007, au moins 70% de la population a déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place. Donc déjà là, rien que ça, bah ça fait du bien de savoir que tu n'es pas seul, hein. C'est ce qu'on appelle l'humanité commune. Et puis ce qui est aussi important de souligner, et alors là je m'appuie encore une fois sur la littérature scientifique, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le terme de syndrome de l'imposteur n'est pas un diagnostic, mais plutôt quelque chose dans la normalité de l'expérience humaine. Et puis la littérature scientifique nous indique aussi que le syndrome de l'imposteur repose sur trois éléments. Le premier, ça va être le fait d'attribuer ses succès à quelque chose d'extérieur et d'attribuer ses échecs à quelque chose d'interne à nous. Comme par exemple, si je réussis, c'est parce que j'ai eu de la chance ou parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et si j'ai échoué, bah, c'est de ma faute. J'ai pas fait assez, j'aurais dû, etc. Le deuxième élément sur lequel repose le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de tromper l'entourage, d'être surestimé par son entourage, comme par exemple, je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas vraiment capable de ça, je ne suis pas à la hauteur de cette situation ou de cette tâche. Et enfin, le troisième élément sur lequel repose le syndrome de l'imposteur, c'est la peur d'être démasqué et que l'on découvre l'imposture intellectuelle, comme par exemple, je vais les décevoir, je vais être dénoncé, on va me montrer du doigt. Et alors, ce que je trouve fascinant, c'est que la recherche a identifié le cercle vicieux du syndrome de l'imposteur. Donc, je te le partage. Il y a 8 étapes qui sont les suivantes. La première étape commence quand la personne réalise une tâche. S'ensuit de l'anxiété, qui l'amène à procrastiner ou à se surpréparer. Ensuite, la personne finit par réussir la tâche qui lui avait été confiée, mais n'arrive pas à s'attribuer cette réussite. Ce qui l'amène donc à se dénigrer et à rejeter les feedbacks positifs. Et donc, ça l'amène à avoir l'impression de s'être trompé ou de ne pas être à la hauteur. Et de par son autocritique, la personne doute de ses compétences et de ses capacités pour les tâches à venir, malgré ses réussites. Et ceci la prédispose de nouveau à ressentir de l'anxiété lors de la réalisation d'une prochaine tâche, l'enfermant dans ce cercle vicieux du syndrome de l'imposteur. Et donc, ce qu'on apprend avec ce cercle vicieux du syndrome de l'imposteur, c'est que notre cerveau va s'appuyer sur un biais cognitif afin de soit confirmer que les facteurs extérieurs justifient nos réussites, soit afin de confirmer que nous sommes le seul facteur responsable de notre échec. Et ce biais cognitif, je te le donne dans le mille, s'appelle le biais de confirmation. Ce biais de confirmation est une erreur de pensée que fait notre cerveau puisqu'il consiste à prendre en considération uniquement les informations qui nous intéressent tout en accordant moins de poids aux informations qui jouent en défaveur de ce qu'on pense. Donc en gros, même si factuellement on sait ce qu'on sait, eh ben on le croit pas. Et donc comme je le répète à chaque fois que je parle de biais cognitif, avoir des biais cognitifs, ce n'est ni bien ni mal. C'est grâce à ça que l'espèce humaine a pu survivre. On en a toutes et tous. Et donc finalement, comme avec le syndrome de l'imposteur, la question n'est pas d'en avoir, mais de se demander ce qu'on souhaite en faire. Et donc, quelles sont les conséquences du syndrome de l'imposteur? Eh bien, la littérature scientifique nous montre que le syndrome de l'imposteur participe à la diminution de notre bien-être. Ça peut amener à la dépression, ça contribue à une faible estime de soi, ça contribue aussi à un faible sentiment d'efficacité personnelle, ça vient aussi avec une forte anxiété ainsi qu'un plus grand ressenti d'émotions désagréables, ça peut entraîner un surmenage et le burn-out, ça vient aussi altérer ses capacités à avoir de bonnes performances au travail et ça contribue aussi à la réduction du bien-être au travail. Bon bah maintenant qu'on sait tout ça, on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on a le syndrome de l'imposteur. Dans ce que j'ai trouvé au niveau de la recherche scientifique, il y a plusieurs facteurs comme notamment notre interprétation des faits, les stéréotypes de genre que la société véhicule, l'environnement dans lequel il y a une forte pression ou bien de la compétition, des étapes d'évaluation ou encore une tendance à dénigrer les réussites, ou encore les avis extérieurs qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors je sais que ce n'est pas très réjouissant, mais reste là, il y a des solutions. Et une fois encore, je m'appuie sur la science, et ce qui est absolument génial, c'est que le coaching est super utile pour dépasser son syndrome de l'imposteur. Étant donné que le cœur du syndrome de l'imposteur repose uniquement sur nos pensées, le coaching est adapté puisqu'on va directement explorer notre système de pensée. Au sein du programme Spotlight, j'aide justement mes clientes à faire la différence entre les faits et leurs interprétations de ceux-ci. Je les aide aussi à se libérer des injonctions sociales, tu sais, tous ces « il faut, je dois ». Et je les aide aussi à développer et à renforcer leur confiance en soi. Et tout ceci participe justement à se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Et donc, si toi aussi tu souhaites te libérer du syndrome de l'imposteur afin d'améliorer ton bien-être, voici ce que je te propose. Tout d'abord, identifie les pensées que tu as qui renforcent ton syndrome de l'imposteur. Il y en a plein, comme par exemple « si j'étais à la hauteur, je n'en douterais pas. Si j'étais à la hauteur, je le saurais. Les autres se sentent toujours à la hauteur. L'autre ne doute jamais de rien. Si je me trompe, c'est que je suis nulle. Je me dois d'être parfaite, car échouer montrerait que je suis incompétente. Je ne suis pas assez bonne. Je ne suis pas là de façon légitime. On me prend pour qui je ne suis pas. On croit que je suis plus ou mieux que ce que je suis vraiment, on croit que je sais, alors que non. Si j'en suis là, c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Faut que ça demande de l'effort pour mériter le terme d'accomplissement ou de réussite. Voilà pour plusieurs exemples de pensées, mais je t'invite vraiment à les identifier toutes celles qui te correspondent. Et ensuite, pour chacune de ces pensées, je t'invite à évaluer ton taux de croyance de celle-ci, c'est-à-dire à combien de pourcents tu crois cette pensée. Ça va te permettre notamment de te rendre compte que y a des pensées qui te sont automatiques, mais finalement, elles ne t'appartiennent pas vu que tu les crois pas réellement. Ensuite, pour chacune de ces pensées, je t'invite à te demander, est-ce que c'est factuellement vrai? Quels sont les éléments tangibles? Est-ce la seule façon de voir les choses? Est-ce la meilleure façon de voir les choses? Ensuite, identifie les situations dans lesquelles tu ressens ce syndrome de l'imposteur. Ça devrait rassurer ton cerveau sur le fait que ce n'est pas tout le temps, dans tous les domaines et avec tout le monde. Et puis, si tu as des pensées en boucle qui alimentent ton syndrome de l'imposteur avant une réunion, par exemple, je t'invite à te concentrer sur les faits et non sur ton interprétation de ceux-ci. Par exemple, je suis enseignante, j'ai un diplôme qui atteste que j'ai les compétences pour enseigner et je suis en poste. Donc, factuellement, je suis légitime à gérer ma classe et à parler de neurosciences avec des familles. Je t'invite aussi à ne plus considérer une situation ou une tâche en fonction de ton niveau de réussite ou d'échec, mais plutôt en fonction des apprentissages que ça va te permettre de faire. Je t'invite aussi à répondre à ces questions puissantes. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne que j'idéalise? Comment cette personne peut m'inspirer? Comment ce qu'elle partage peut me faire grandir? Qu'est-ce que je perds à ne pas dire ce que je pense, à ne pas faire ce que j'ai envie? En quoi oser dire ou faire quelque chose permettra d'enrichir la conversation, ou bien d'aider l'autre à grandir ou de créer de nouvelles opportunités? En quoi je peux me servir de ces pensées pour aller de l'avant, par exemple monter en compétences? Qu'est-ce qui prouve que ma pensée est fausse? Ça, c'est vraiment une question hyper puissante. Je te rappelle au passage que le problème, ce n'est pas la pensée, mais le pouvoir qu'on lui donne. Et pour conclure cet épisode, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 42 sur comment cultiver des pensées créatrices, le 43 sur la comparaison et comment préserver sa confiance en soi, et le 62 pour apprendre à distinguer un fait d'une interprétation. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direction mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram, @lacochecamille. Prends soin de toi!